c'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4:09, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
La déferlante des radios offshore s'est abattue sur la Grande-Bretagne. Au début de l'été 1964, il y a déjà 4 stations maritimes au large des côtes britanniques. Radio Atlanta a fusionné avec Radio Caroline, sa grande rivale. La station dispose maintenant de 2 navires pour émettre pratiquement sur tout le pays. 2 autres radios ont fait une entrée plus timide, Radio Search et Radio Invicta. Elles n'émettent pas depuis des bateaux, mais ont pris possession d'anciennes structures de la Royal Navy implantées en mer. Le succès de Radio Caroline est incontestable, et le gouvernement de Sa Majesté est dans l'embarras. Il y a bien eu quelques démarches à l'échelle européenne pour tenter de faire taire ces émetteurs. Mais rien ne s'est concrétisé. Le débat est lancé et l'on commence à évoquer la possibilité de créer un réseau de radios locales. Mais qui pour les gérer ? La BBC ou des opérateurs privés ? Il est clair qu'en créant leur radio, Alan Crawford et Ronan O'Reilly ont jeté un pavé dans la mare. Le problème est que cette mare, c'est la Manche et la mer du Nord. Dans le reste de l'Europe, la situation est relativement calme, en apparence tout au moins. Malgré des ennuis judiciaires réguliers, Britt Wadner, directrice de Radio Seed, tient bon. Et sa station continue à émettre pour le public suédois. En Hollande, les émissions de Veronica, qui est devenue la doyenne des radios flottantes, ne semblent plus émouvoir le gouvernement. Cette apparente tolérance est-elle la raison qui va pousser une équipe à se lancer dans un projet incroyable au-delà de toute imagination ? Tout commence dans le courant de l'année 1963. Constatant que Radio Veronica remporte un large succès auprès du public néerlandais et que tant au gouvernement qu'à la radio nationale on ne réagit pas vraiment, un groupe d'hommes d'affaires va former le projet de lancer non seulement une station de radio, mais aussi une chaîne de télévision offshore. Ils créent une société et émettent des actions dont la vente est un énorme succès. Leur projet est pour le moins audacieux. Ils choisissent d'emblée de ne pas utiliser un bateau, mais d'établir une structure permanente sur le modèle d'une plateforme pétrolière. Les hommes d'affaires derrière ce projet vont s'associer avec un constructeur naval de Rotterdam, Cornelis Verholm, pour mener à bien ce projet incroyable. La société créée s'appelle Reclam Exploitati Maatschappij, plus connue sous le nom de REM. Les travaux de conception de la structure furent confiés à Cor Verholm, qui avait déjà une longue expérience dans la construction de plateformes de forage. L'idée était à la fois d'utiliser la technique éprouvée dans ce genre d'installation et de l'adapter aux besoins spécifiques permettant d'accueillir une radio et une télévision permanentes. Tous les éléments d'une plateforme identique à celle construite sur le lac Maracaibo au Venezuela furent discrètement acheminés depuis l'Irlande dans les eaux internationales au large de Nordwijk. Et la plateforme fut assemblée dans la nuit du 4 au 5 juin 1964. Puis c'est à la société américaine RCA qu'est confiée l'installation de tout l'équipement de diffusion. Et le 19 juillet, la radio débute ses premiers essais de transmission depuis ce que l'on appellera désormais REM Island.
But just for a change, let's have something from the show. And the show, the Red Mill.
Les premiers tests se font en anglais, sans qu'aucun nom de radio ne soit mentionné. Mais le 29 juillet, les émissions démarrent en néerlandais sous le nom de Radio Noordzee.
Hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee, hallo Radio Noordzee.
Luisteraars in Nederland, dit is de stem van het REM-eiland die u bereikt vanaf de Vrije Noordzee. Dit is uw Radio Noordzee.
Rem Island mesure 25 mètres de long et 15 mètres de large. Elle s'élève à 13 mètres au-dessus de l'eau. La plateforme repose sur des pieds enfoncés jusqu'à 18 mètres sous l'eau, consolidés avec du béton. Elle est surmontée d'un pylône de 360 pieds de haut qui accueille les émetteurs. On y trouve bien sûr des studios mais aussi des logements et une piste d'atterrissage pour hélicoptères garantissant un accès moins tributaire des aléas de la météo.
Vandaag begint het Rem-eiland zijn activiteiten, die erop gericht zullen zijn u plezierig amusement te bieden van het goede soort. Voorlopig zult u ons alleen kunnen horen via de zender Radio Noordzee op 214 meter. Binnenkort zult u ook onze televisieprogramma's kunnen ontvangen. Voorlopig dus nog, luister mee naar Radio Noordzee. En binnenkort ook, kijk mee naar TV Noordzee.
Goedemorgen luisteraars. Welkom op ons eiland. Ik ben uw omroepster. Mijn naam is Sonja. Voorlopig zal onze kennismaking beperkt blijven tot dit radiocontact. Maar we hopen u ook nu al te kunnen bewijzen dat we u programma's bieden waarnaar u graag zult willen luisteren. En straks, kijken.
Le 22 juillet, un étrange article paraît dans le Daily Mail. The Daily Mail, mercredi 22 juillet 1964. Un nouveau navire radio pirate en onde. Un nouveau navire radio pirate, baptisé Your Radio of the Sea, a commencé à opérer hier soir en mer du Nord, quelque part au large des côtes entre Great Yarmouth et Lowestoft. Les gardes-côtes ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas voir le navire, qui, selon les auditeurs, diffusait de la musique pop sur presque la même longueur d'onde que Radio Caroline, basée à environ 70 miles plus au sud. Personne n'a plus jamais entendu cette radio, appelée Your Radio of the Sea. A-t-elle réellement existé? Les auditeurs ont-ils confondu avec Radio Caroline? On le sait, et l'avenir le montrera, d'autres projets de radio offshore étaient en gestation durant cette période. Une équipe a-t-elle discrètement fait des essais ce soir-là? Your Radio of the Sea restera un mystère. En août, Britt Wadner, directrice de Radioseed, comparaît pour la seconde fois de l'année devant un tribunal suédois pour émission de radio illégale. Elle est condamnée à un mois de prison. C'est la deuxième fois qu'elle fait un séjour derrière les barreaux pour son refus d'arrêter les émissions de sa radio. Mais la loi suédoise autorise un détenu à poursuivre son activité professionnelle durant sa détention. Ainsi, depuis sa cellule de la prison de Hinsberg, Britt Wadner continue à diriger sa station. Son incarcération, qui a été très médiatisée, a donné lieu à un élan de soutien massif. Et à l'antenne, les DJ ne manquent pas de rappeler la situation de leur emblématique directrice, ce qui produit une belle promotion pour Radioseed.
Ni lyssnar på Radio Syd 88,3 på FM-bandet, Skånes egen radio. Det var Söndagsposten och Britt Wadner. Vi fortsätter våra sändningar till klockan tre natt och ger er goda tips och glada toner.
Pendant ce temps, sur Rem Island, après avoir lancé Radio Nordzee, Télé Nordzee démarre des essais de transmission le 12 août.
Voor de goede orde, dames en heren, maken we u er nogmaals op attent dat u kijkt naar een proefuitzending van TV Noordzee. TV Noordzee start niet met het officiële programma voordat we weten dat alles wat betreft de ontvangst in orde is. En daarbij kunt u ons behulpzaam zijn. Iedere dag worden er overal in Nederland nieuwe remantennes geplaatst. Daardoor komen er iedere dag honderden, ja duizenden nieuwe kijkers bij. Hoe al die nieuwe kijkers ons ontvangen is voor ons van grote betekenis. En daarom willen we dat graag van u horen. Wij moeten dit proefprogramma iedere dag herhalen om er zeker van te zijn dat straks alle kijkers tevreden zullen zijn over het beeld dat zij ontvangen. Toch zenden we gedurende deze proefperiode elke dag na het herhalingsgedeelte een nieuwe film uit. Maar hierover zullen onze omroepsters u meer vertellen.
En Grande-Bretagne avec ses deux navires, Radio Caroline n'a pas une seule concurrente. Radio Invicta tente bien de proposer une alternative avec un programme musical davantage destiné aux adultes. La playlist compte de nombreux golds. Mais son émetteur est de faible puissance. Toutefois, dans les zones où on peut la capter, elle séduit une petite audience. Quant à Radio Search, ses programmes sont toujours aussi chaotiques. Annoncés comme devant diffuser entre 12h et 14h, puis entre 17h et 23h tous les jours, la station manque fréquemment ses rendez-vous avec ses auditeurs. Les causes sont multiples. Parfois, les DJ oublient de se réveiller ou font une sieste qui dure plus longtemps que prévu. Parfois, c'est l'émetteur qui est récalcitrant. En effet, au début, il fonctionnait sur batterie, et pour peu qu'elle soit toute déchargée, évidemment, l'émetteur ne pouvait rien transmettre. Au bout de quelques semaines, le générateur électrique du fort, datant de la Seconde Guerre mondiale, fut remis en état. Mais le matériel de la station était de toute façon très sommaire et les pannes et autres incidents en direct étaient nombreux. À l'écoute, on pouvait parfois être surpris de ce que l'on entendait, comme ce dimanche 23 août où Screaming Lord Search, qui est à l'antenne, se mouche apparemment après avoir ouvert son micro.
Now we'd like to continue this intellectual program coming to you from Radio Such, the program with much. And now I'd like to tell you about the story of the beautiful blonde who rushed off with the sailor. And I understand that she was a best girlfriend of Del Shannon, so he's renamed her now, and here he sings about her on his London record, which is called, well, let him tell you himself.
Un peu plus tard, il interpelle bruyamment Brian Paul, un autre DJ de l'équipe, qui nage autour de Shivering Sound en poussant des cris.
I don't know if you can hear any of the shouting and bawling going on here in the radio such, but as I looked out the window, I heard a lot of shouting and bawling and yelling. I looked out, and there was Brian Paul on a great long piece of rope swimming round the towers. So I don't know if you'd like all to say hello to him, but I'll get him to shout out. I can just about see him as I look out the window here, and as I'm moving towards the window, I'd like to shout. Hello, Brian! Give him the shout! Go up! Go up, give him a shout! All right. Say hello to all the listeners! And again! And that was Nutty Brian Paul shouting and bawling as he's in the middle of the sea here swimming round and round the towers. But he's having a great ball and really, really enjoying himself. So all you people who like a good swim will understand exactly what he's feeling as he's shouting and bawling and yelling. So now I'd like to give you a new record coming up to you on the Columbia label. And this one is by Jerry and the Pacemakers, and it's their great big hit of Don't Let the Moon Catch You Crying or Sighing or Going to Sleep.
Don't let the sun catch you crying.
Radio Such fut peut-être la première radio punk anglaise plus d'une décennie avant la naissance de ce mouvement. Son audience ne fut jamais vraiment connue. Elle était de toute évidence inférieure à celle de Radio Caroline. Du côté de la musique, on s'aperçut bien vite que les disques qui passaient étaient majoritairement ceux des artistes dont Reginald Calvert assurait la promotion. Si Radio Caroline couvre toute la Grande-Bretagne avec ses deux navires, les deux programmes restent gérés de façon indépendante et cela provoque quelques problèmes. Certains DJ de Radio Atlanta n'ont pas voulu poursuivre sur l'antenne de Caroline South et certains anciens DJ de Caroline North ayant rejoint le Miamigo se plaignent de la trop grande influence qu'Alan Crawford tente d'exercer sur la programmation musicale. À l'époque de Radio Atlanta, la playlist faisait la part belle aux productions soutenues par Crawford. Les DJ de Caroline, quant à eux, avaient toujours eu une liberté totale sur le choix des disques qu'ils jouaient. L'interventionnisme de Crawford n'était donc pas très bien vécu. L'arrivée sur l'antenne de Caroline South du Caroline Club Request Show permit d'unifier un peu les deux programmes. Cette émission avait été lancée quelques mois avant la fusion sur le MV Caroline. Elle offre aux membres du club la possibilité de choisir leur disque.
Well, I've got a card now from Bournemouth. Nice to know you're picking us up out there. Put us down again at once. Oh well, it was a try anyway.
Picking up like a lead balloon.
Yes, you can't win every time, can you? I thought it was a good idea, but wish I hadn't said it now. Anyway, on with the requester that says it's to Sally McKenzie of Sandbourne Road, Bournemouth, from Ken, who says that he's looking forward to seeing you very soon, the moment he returns from the sea voyage. Well, for you, here's Roy Orbison with Oh Pretty Woman.
Island, Tele Nordsee démarre officiellement ses programmes le 1er septembre 1964.
Dames en heren, u ziet ons op het ogenblik in het hartje van Amsterdam, namelijk op de Dam. Want we zijn heel erg benieuwd hoe onze eerste proefuitzendingen ontvangen zijn.
Meneer, mag ik u iets vragen? Heeft u TV Nord 2 goed ontvangen?
Nou, ik heb gisteravond schitterend ontvangen. Ik kan het ook niet meer zeggen, dat is mooi. Als het altijd zo is, er zijn natuurlijk wel wat foutjes, maar het is in het begin is het altijd moeilijk. Ik heb de reis goed ontvangen en ik ben blij dat die nieuwe programma's zo goed naar voren komen. Nee, ik heb wel geprobeerd, maar ik heb niet ontvangen.
Nou, we hebben het niet zo erg goed ontvangen, maar mijn vader heeft allemaal gekke dingen met de strijkbout uitgehaald.
Nou, ik heb het wel ontvangen, een beetje wazig, maar...
Le gouvernement néerlandais, qui avait été relativement tolérant à l'égard de Radio Veronica, n'eut pas du tout la même attitude face à Radio et Tele Nordsee. Rem Island n'était pas un bateau, mais une structure permanente, une sorte d'île artificielle. À cette époque, l'une des craintes suscitées auprès de tous les gouvernements concernés par les radios offshore était que ces émetteurs puissent servir à diffuser de la propagande politique. En pleine guerre froide, le sujet était sensible. Ainsi, le fait qu'un diffuseur de programmes radio et télé puisse s'établir sur une structure permanente attisait encore la méfiance. Le 16 septembre, le sujet fut évoqué à la chambre basse du Parlement néerlandais et le lendemain, il fut décidé de prendre des dispositions juridiques permettant d'intégrer Rem Island à l'intérieur des eaux territoriales. Pour cela, le gouvernement s'appuya sur la Convention de Genève de 1958 rédigée par l'ONU qui définissait les limites d'un plateau continental sur lequel un État pouvait exercer sa juridiction. Cette convention autorisait un État à étendre ses frontières jusqu'à 200 miles en fonction de l'étendue immergée d'un plateau continental situé dans le prolongement de la côte. Dans une telle configuration, la limite des eaux territoriales n'était plus définie par la distance en surface à partir de la côte, mais par l'étendue du plateau marin se prolongeant sous l'eau. Dans ces conditions, toute structure implantée sur un plateau marin intégré aux eaux territoriales tombait sous la juridiction du pays. Une course contre la montre s'engagea alors entre le gouvernement et les promoteurs de la société REM. En effet, la promulgation d'une telle loi allait nécessiter des débats et autres garanties juridiques qui prendraient plusieurs mois. Les responsables de Radio et Télé Nordsee transférèrent d'abord la propriété de l'île à une société domiciliée au Panama et l'exploitation des deux antennes à une entreprise britannique. Puis les actifs de REM furent transférés à une nouvelle société, Televisie en Radio Omroep Stichting TROS. Le projet était de désolidariser totalement cette nouvelle société de Rem Island, puis de demander une licence temporaire d'émission en attendant un éventuel changement de la loi hollandaise. Le gouvernement allait-il se laisser amadouer par ce tour de passe-passe ?
U luistert naar Radio Noordzee op 214 meter met dagelijkse uitzendingen vanaf het Rem Eiland. Dit is ons signaal. We hopen dat dit signaal voor u gauw een bekend geluid zal worden. Dat het een herkenningsteken zal zijn voor dagelijks plezierig amusement en voor onderhoudende, ontspannende programma's waar u graag naar luistert. We zullen het zeer op prijs stellen wanneer u ons laat weten hoe u ons ontvangt, hoe u de programma's vindt en wat uw speciale muzikale wensen zijn. Want Radio Noordzee en straks TV Noordzee is er in de eerste plaats voor u. Voor uw genoegen en voor uw ontspanning. Schrijf dus een briefkaartje naar ons adres. Rem, Herengracht 543 in Amsterdam.
Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, Radio Such change de nom pour devenir Radio City. Screaming Lord Such, qui l'a cofondé avec son manager Rick Calvert, s'apprête à partir en tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec son groupe The Savage, dans lequel joue notamment Ritchie Blackmore, futur fondateur de Deep Purple. Such mène aussi une carrière de trublion politique au sein du National Teenage Party. Toutes ces conditions font qu'il se désintéresse de la radio et la laisse entièrement à Rick Calvert. Après quelques semaines, ce dernier parvint à améliorer la qualité des programmes et la réception avec un nouvel émetteur. On pouvait entendre Radio City au cœur de Londres. Malgré tout, les annonceurs n'étaient toujours pas séduits et l'argent manquait. Rick Calvert eut alors recours à une solution qui servira plusieurs fois de bouée de sauvetage à d'autres radios offshore en difficulté financière. Diffuser des programmes religieux américains sponsorisés. Ces émissions contribuèrent rapidement à hauteur de 80% des revenus de la station. Le problème est qu'elle s'accordait plutôt mal avec le style de Radio Such. Ainsi, à la mi-décembre, Rick Calvert fit l'acquisition d'un second émetteur pour diffuser sur une autre fréquence les programmes religieux dont il ne pouvait se passer.
The Dixie Cups on their way to the Chapel of Love. Of course, I said they were going to meet their fiancé, but come to think of it, there are plenty of Dixie Cups, they must have plenty of fiancés. Well, that's the way it seems. I must admit, I'm inclined to disagree with the sentiment on the next record. We like you to spend your whole day listening to Radio City, but the Four Seasons say silence is golden.
Le succès de Radio Caroline n'embarrasse pas seulement la classe politique, mais provoque aussi des remous à la BBC. Dans un article du Daily Mail du 3 octobre, on apprenait que la station publique mettait fin à son plus vieux programme musical, Workers' Playtime, qui avait été lancé durant la Seconde Guerre mondiale. Une institution disparaissait. Dans le même journal ainsi que dans le Billboard du 31 octobre, une enquête d'audience est publiée. Grâce à ces deux navires, Caroline touche un potentiel de 39 millions d'auditeurs. Les programmes du matin sont écoutés par environ 309 000 personnes et l'audience grimpe à 1 430 000 personnes en journée. Tout cela après 6 mois d'existence. Depuis le siège de Chesterfield Garden, Alan Crawford commente pour le Daily Mail. « J'ai toujours su que ça se passerait comme ça. L'expérience dans d'autres pays a montré qu'il y avait un public pour la musique pop. Le besoin a toujours été le même. Ici, nous y avons répondu en brisant le monopole. » Les tarifs publicitaires sont en augmentation et les bénéfices de Radio Caroline sont très importants, mais la direction se refuse à les communiquer. Il fallait s'attendre à ce que cet énorme succès ne laisse pas indifférent. Et de fait, une nouvelle voix ne tarda pas à se faire entendre.
Jerry and the Pacemakers, that's the title one from their new film, their first film, Ferry Across the Mersey, and it's 29 past that big hour of 9 o'clock. We'll be coming your way today, right up until 8, test transmissions from Radio London, number one for fun.
Durant le printemps, Don Pearson, un homme d'affaires texan, était venu constater par lui-même la situation des radios offshore en Grande-Bretagne et le succès de Radio Caroline. De retour aux États-Unis, il réussit à convaincre plusieurs businessmen de créer une concurrente à la populaire radio aux deux navires. Un ancien dragueur de mine de l'armée américaine, le Galaxy, fut racheté et équipé dans un port de Miami. Le 22 octobre, il quitta l'Amérique pour rejoindre l'Europe. Il jeta l'ancre le 19 novembre au large de Shivering Sand, juste en face du fort occupé par Radio City. Radio London, c'est son nom, se présenta d'emblée comme une entreprise très sérieuse avec de très gros moyens. L'Américain Gordon McLendon, qui fut associé à la station suédoise Radio Nord, était consultant pour les programmes. Et la direction de la radio fut confiée à Philip Birch, qui fut notamment chargé des campagnes publicitaires Ford chez G. Walter Thompson, l'une des plus grosses agences de publicité du monde. Le Galaxy abritait un puissant émetteur de 50 kW et son mât était annoncé comme mesurant 212 pieds. Si, pour séduire les publicitaires, Radio Caroline avait misé sur de très jeunes et jolies femmes enthousiastes, à Radio London, on préféra constituer un staff de professionnels ayant déjà une longue expérience dans le secteur de la presse et des médias en général.
Great stateside number from David Hill, Living Doll, popularized in this country by, of course, Cliff Richard, whom we're hearing from later on in the show with one of those numbers from that fabulous Aladdin pantomime show starting off in London's Palladium Theatre. Sometime this month. Right now, though, it's 5 to 11. 5 to 11, and we're back to Radio London's Fabulous 40. Marvin Gaye's the name, Tamla Town Sound.
C'était les DJ de la haute mer, huitième épisode.